Et bienvenue à tous et à toutes. Merci à Corinne d'avoir assuré la louange malgré une voix menacée par la toux et par ça. Je prie que je vais pouvoir aussi parler. Je ne serai pas comme Zacharie. Silencieux. Bienvenue donc en cette belle journée hivernale, soleil et froid. Nous allons prier après les annonces. Les annonces en fait sont réduites puisque pendant les deux semaines qui viennent, on n'aura pas de réunion de prière ni le mardi ni le mercredi soir. Je vous invite donc à célébrer le culte de Noël. On le fera le samedi soir à partir de 18h30. Et on vous demande si vous souhaitez, si vous avez le temps de rester un petit peu après, d'amener des bonnes choses pour partager. Ça ne sera pas un repas, mais si vous avez des amuse-gueules, des tapas, et autres zakouskis, des petites choses, on pourra passer un petit moment avant de regagner, pour ceux qui ont des projets pour cette soirée-là, vos familles ou vos amis. Donc c'est comme ça qu'on prévoit de célébrer. Pas de culte dimanche prochain. Dites-le à ceux que vous connaissez qui risqueraient de venir et qui ne seraient pas au courant. Oui, tu veux dire ? Ah, pardon. On a des sujets de prière, on va commencer par prier pour remettre ce culte à Dieu. Oui, merci Seigneur parce que nous te célébrons en cette période de Noël, nous célébrons tout ce que tu représentes, ton amour qui s'est manifesté jusqu'au point de venir. Tu es venu pour prendre un costume d'homme et dans l'espoir ou dans le dessein de mourir en sacrifice pour nos péchés, Seigneur. Aide-nous à ne jamais oublier ce sens profond de Noël, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui est associé avec la joie, la lumière, l'espérance dans le noir de Noël, dans le noir de cette saison, astronomiquement parlant, mais aussi d'une façon spirituelle, Seigneur. Nous vivons aujourd'hui encore dans des ténèbres, pour la plupart d'entre nous, Seigneur, sur cette terre. On voit tous les malheurs, on pense aux personnes persécutées, martyrisées dans certaines places du monde, comme un Moyen-Orient, Alep, Mossoul, Palmyre, tous ces endroits où la mort est au quotidien. Seigneur, aide-nous à proclamer ton message de Noël, Seigneur, ce message d'espérance, ce message de foi et d'amour, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié dans cette assemblée. Sois aussi glorifié dans toutes les assemblées qui se réunissent en ton nom, dans ton esprit, dans ta vérité, Seigneur, aujourd'hui, à Nice, dans la région, en France et dans le monde entier, Seigneur. Merci d'être à l'œuvre. Merci de ce que tu nous amènes, une espérance vivante, Seigneur, que nous sommes pas laissé seul, mais que nous pouvons compter sur toi, Seigneur, et tout ce que tu représentes. Nous prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé une petite série de trois messages, avec un premier message sur la foi. On a trouvé un commentaire en la personne de Zacharie. Zacharie et sa femme Élisabeth qui avaient prié pendant longtemps et qui avaient perdu la foi de ce qu'ils puissent un jour avoir un enfant. Et puis, on a vu comment Dieu a répondu, même alors qu'ils avaient, perdu l'espoir, Dieu leur a donné un enfant qui a fait leur joie, qui s'appelait Jean-Baptiste, et qui a permis d'être le précurseur de Jésus-Christ, du Messie. Et il fallait qu'il y ait Jean-Baptiste, il fallait qu'il vienne pour que le plan de Dieu se déroule sur notre terre et nous amène l'espoir et nous amène le salut. Ça, c'était un des premiers éléments dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13 lorsqu'il parle des grandes choses qui comptent vraiment. Il y a beaucoup de chances, beaucoup d'éléments dans nos vies qui attirent notre attention, qui demandent notre énergie, notre consécration. Mais en fait, il y a peu de choses vraiment sérieuses, peu de choses vraiment importantes auxquelles nous devrions nous consacrer. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'amour dans des termes inégalés, que l'on peut relire encore aujourd'hui avec joie, avec espérance, avec foi, il nous dit qu'il y a trois choses en fait qui comptent. La première, c'est la foi. On en a parlé la semaine dernière. L'espérance, on en parle aujourd'hui. Et l'amour. Puis il ajoute, et on verra pourquoi, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais il y a trois choses qui comptent vraiment dans nos vies, qui devraient compter vraiment dans nos vies. C'est ces trois éléments qu'on appelle des fois, en termes théologiques, les vertus cardinales, la foi, l'espérance, l'amour. Et aujourd'hui, on va toujours à la lumière de Noël trouver un exemple d'espérance, l'espérance à Noël. La Bible parle souvent de personnes qui n'étaient pas tellement connues à leur époque ou qui n'avaient pas une grande reconnaissance de la part de leurs contemporains. Mais Dieu les a remarquées. Et c'est quelque chose que nous devons tous avoir à l'esprit, c'est que Dieu ne cherche pas des hommes célèbres pour les bénir. Nous avons tendance, nous sommes dans un monde où c'est les paillettes, c'est les stars qui comptent. On veut gagner la finale du concours de pâtisserie, on veut gagner la finale du Danse avec les stars, on pense que ce sera là le bonheur. La célébrité, il y a toute une industrie qui tourne là-dessus, qui tourne avec ça, les People Magazine, la folie People, c'est tellement vain, vide et vaniteux. On voit que ces mêmes magazines qui vous font l'apologie de la beauté de ces personnes sont les premières à montrer des photos de la même personne quelques années plus tard lorsqu'ils ont pris du poids, lorsqu'ils se négligent. Et c'est une gloire tout à fait passagère, tout à fait vaine, que nous serions bien inspirés de ne pas rechercher. Dieu, lui, il voit les cœurs. Il voit les cœurs et il voit votre cœur. Et tout ce qu'il vous demande, c'est de le chercher de tout votre cœur. Les rois mages l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il promet de se laisser trouver dans Jérémie 29, 11 et suivant. Il ne joue pas à cache-cache, mais il cherche des gens sincères, il cherche des gens qui le veulent de tout leur cœur. Et on a chanté ce matin à propos d'un tel personnage, c'est notre bon ami Siméon. Siméon qui, on a chanté la chanson « Ô maître souverain » qui explique un peu sa position, son cœur. On va pas... Et puis pourquoi pas, on va lire Luc 2 et on va s'attacher au passage 21 à 35. Mais on va commencer pour nous remettre dans l'esprit de Noël. À cette époque parut un édit, je lis à partir du verset 2, 1 de chapitre 2 de Luc. À cette époque parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes, ou dans l'auberge, comme on dit par ailleurs. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait, et Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, donc ça c'est la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem et cet épisode où des bergers qui étaient à l'époque... des personnes en qui personne n'avait confiance et dont tout le monde se méfiait, ces bergers sont interpellés par un ange qui leur annonce la naissance de l'enfant Jésus. Et eux se dépêchent d'y aller. Marie, elle, qui vient d'avoir son enfant, médite dans son cœur tout ce que l'ange lui avait dit et tout ce moment... Elle le savoure, elle y réfléchit, elle le passe dans son cœur. Et puis on arrive au verset 21, on va le lire maintenant. « 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification... pris fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Et maintenant, nous avons le seul endroit dans la Bible ou dans toute la littérature où on parle d'un de cet homme, Siméon. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur », meilleure traduction comme on l'a chanté serait « Maintenant, ô Maître souverain, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » On va s'arrêter là. Le reste décrit le témoignage de Anne, qui elle aussi attendait le Messie. Et puis on saute plus tard dans le temps. Jésus a 12 ans, il revient au temple. Mais on veut se concentrer aujourd'hui sur l'idée que Noël amène une grande espérance. L'espérance à Noël. Le mot d'espérance, qu'on peut aussi traduire par espoir, en termes moins théologiques, c'est un mot qui est très fort dans le sens biblique. Ce n'est pas le genre d'espoir qu'on entretient aujourd'hui quand on dit « j'ai pris un ticket du loto, j'espère gagner peut-être ce soir ». Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais ça serait chouette, ça serait super. Non, l'espoir ou l'espérance dans la Bible, c'est une attente favorable et confiante. C'est l'attente de quelque chose de bien à venir. C'est quelque chose qui est invisible pour le moment, mais qui va se manifester dans le futur. Et non seulement c'est cette heureuse anticipation de quelque chose de bien, mais c'est aussi la base sur laquelle on fonde cette espérance ou cet espoir. Il y a beaucoup de passages où on trouve ce mot qui est le mot d'espoir ou d'espérance selon les traductions, mais c'est quelque chose de très important. On a parlé la semaine dernière de la foi, l'espérance des choses à venir, la certitude des choses qu'on ne voit pas. On voit qu'il y a une relation très étroite entre la foi et l'espérance. La foi vous permet de voir quelque chose qui n'est pas là encore, et l'espérance vous permet d'attendre cette chose, vous permet de patienter sans vous décourager. Et nous vivons dans un monde où il faut faire preuve de foi, mais aussi faire preuve d'espérance, avoir cette patience pour voir ce que Dieu nous a promis, que nous croyons par la foi, le voir se réaliser. Cette attente, cette certitude que les choses vont arriver, c'est quelque chose de très fort. Si vous êtes comme moi, et Dieu merci, vous ne l'êtes pas, pour vous, vous avez horreur d'attendre. Il y en a qui ont horreur d'attendre, je ne vais pas demander que vous leviez la main, mais déjà certains l'ont fait parce que c'est tellement une part de notre personnalité et beaucoup de notre économie est fondée sur la réduction des temps d'attente. On a toujours des ordinateurs plus rapides, des téléphones plus performants. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour la compagnie des téléphones aux États-Unis, où ma tâche c'était de faire en sorte que les ordinateurs répondent le plus rapidement aux demandes qui étaient formulées par les clients, qui voulaient savoir comment, où en était leur compte, où était l'installation. Et on se battait, il y avait tout un groupe qui était destiné à améliorer le temps de réponse. Et Dieu, il n'est pas nécessairement à l'amélioration du temps de réponse. Dieu, il sait que le fait d'attendre, ça peut développer notre caractère. Ça peut développer notre capacité plutôt, à vivre dans un monde où rien n'est sûr, où rien n'est immédiat nécessairement. Et pour moi, le pire, ce sont les files d'attente. Il y a moins de monde maintenant dans les magasins. On parlait avec quelqu'un à Carrefour l'autre jour qui se plaignait du fait qu'il y a de moins en moins besoin de vendeurs dans les grandes surfaces. Parce que maintenant, on peut aller beaucoup plus vite en commandant sur Amazon. Et ça leur fait un tort considérable. Le pire, c'est que les gens viennent voir et toucher les objets dans le magasin, mais ils savent qu'en le commandant sur Amazon, ils n'auront pas à transporter, ils n'auront pas. Souvent, ce sera moins cher. Et donc, il y a des files d'attente encore. Et moi, j'ai un don avec les files d'attente, c'est que la mienne est toujours la plus lente. Et que même si je décide que cette file est trop lente, je vais passer à l'autre file parce qu'il n'y a presque personne. C'est à ce moment-là que l'imprimante ou la machine de la caisse va tomber en panne de papier. Et la personne qui est là n'a jamais encore changé le papier. Il va falloir qu'on... Je crois qu'on a tous fait ce genre d'expérience, mais là, on a quelqu'un qui attendait avec patience ce Siméon. Prochaine fois que vous êtes dans une file d'attente, pensez à Siméon. Mettez vos esprits, vos pensées sur cet homme. Il est dit, on va juste d'abord rappeler que Jésus est né dans une famille qui obéissait à la loi. Il est venu accomplir la loi, les 10 commandements et tous les commandements qui en dérivaient et qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais il allait dépasser la loi. Mais il y a obéi, et dès l'enfance, dès qu'il a été conçu, ses parents voulaient plaire à Dieu, voulaient suivre la loi. Donc ils ont notamment suivi la prescription qui disait que le 8e jour après la naissance d'un enfant mâle, il devait être circoncis. Et la circoncision, c'était physiquement l'ablation du prépuce chez les enfants, les petits garçons. Mais c'était un symbole qui avait été utilisé par Dieu pour signifier à Abraham qu'il fallait se séparer de la chair. C'est un symbole de l'enlèvement de la chair ou du fait qu'on veut ne plus vivre charnellement, de façon charnelle. C'était au point que les Juifs parlaient des circoncis et puis des incirconcis. C'était pas le fait seulement qu'ils avaient subi cette intervention, mais c'était aussi une réflexion sur leur spiritualité ou leur absence de spiritualité. Les incirconcis, c'était les païens, ceux qui n'avaient pas la foi en Dieu, ceux qui vivaient sans lui, tout en se moquant de lui. C'était très fort. Et là, donc, l'enfant Jésus va se séparer de sa vieille nature, en quelque sorte. C'est faux théologiquement parce qu'il n'a pas de nature de pécheur, mais en faisant cette démarche, il s'identifiait à nous les pécheurs, et ça c'est déjà une grande espérance pour nous, une espérance de Noël, le fait que Jésus a suivi les prescriptions pour être, qu'ils l'ont identifié à nous les pécheurs. On n'a pas un Dieu qui est resté dans son trône, loin de nous, et qui nous punit lorsqu'on ne fait pas les choses comme il faut. Non, il s'est identifié à nous. Il a pris, comme je disais tout à l'heure, un costume de chair, un costume d'homme. Il est venu vivre parmi nous montrer ce que Dieu attend de la vie d'un homme qui plaît à Dieu. Alors bien sûr, il était le Fils de Dieu, il était Dieu de toute éternité. Il était Dieu le Fils, à côté de Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, qui de toute éternité étaient ensemble. Et dans une démarche difficilement compréhensible pour les humains, Dieu a décidé de venir en la personne du Fils mourir pour mes péchés et les vôtres, et tous ceux de l'humanité. Dieu est mort pour les musulmans, Dieu est mort pour les bouddhistes, Dieu est venu mourir en Jésus pour tous les athées, les agnostiques, les gagnants de Danse avec les stars, etc. Il est venu pour toute l'humanité. Et si nous venons à lui dans l'humilité, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de son pardon, que nous nous mettons au bénéfice de son sacrifice, alors nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes considérés par le Père comme si nous n'avions jamais péché, ce qui est absolument incompréhensible à nos esprits, mais c'est la vérité. Si nous venons à lui, le Père nous voit à travers la perfection de Jésus-Christ. Il y avait dans l'Ancien Testament aussi la prescription que lorsqu'une femme donnait naissance à un enfant, elle était impure pendant 33 jours si c'était un garçon et pendant plus longtemps si c'était une petite fille. Et il y avait une période de purification qui devait prendre place, pendant laquelle elle ne devait pas se rendre au temple, elle ne pouvait pas s'y présenter. Et là, 40 jours après la naissance de l'enfant, 8 jours et les 33 jours, ça fait 41, mais 40, elle vient, conformément à la loi du Seigneur, pour consacrer le mâle premier-né à Dieu dans le temple, consacré au Seigneur. Il n'y avait pas de baptême des enfants, mais il y avait cette présentation au Seigneur que l'on pratique aujourd'hui avec nos propres enfants pour les remettre, leur dire qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'on demande son aide pour les élever dans ses voies. Donc, Joseph et Marie amenèrent l'enfant à Jérusalem. Et il devait offrir un sacrifice. Dans le Lévitique, on peut regarder Exode 13 d'abord, qui est repris par l'évangéliste Luc, verset 12 du chapitre 13 d'Exode. « Tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et puis, lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, etc. » Il donne le sens de ce sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est demandé. Et dans Le Lévitique 12, verset 8, un peu avant, c'était... Non, on va pas lire Lévitique 12. Lévitique 12, pardon, c'est après. On était dans l'Exode. C'est le passage qui parle de la purification après l'accouchement. Verset 1 du chapitre 12 de Lévitique. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang, jusqu'à ce que prenne fin la période de sa purification. Elle ne touchera aucun objet saint et n'ira pas au sanctuaire. Si elle donne naissance à une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au moment de ses règles. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque prendra fin la période de sa purification, c'est ce que nous sommes en train de lire dans Luc, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre, ou du temple après, un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre les sacrifiera devant l'Éternel et fera l'expiation pour elle. Elle sera alors purifiée de sa perte de sang. Telle est la loi pour la femme qui met au monde un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour elle et elle sera pure. Donc il y avait toute cette purification rituelle qui peut sembler un peu bizarre et barbare aujourd'hui, mais qui avait pour signification de montrer que le péché, c'était quelque chose qui compliquait les choses avec Dieu. Et tous les rituels que l'on peut voir, dans notamment le Lévitique, c'est pas pour qu'on pratique ces choses aujourd'hui, mais c'est pour nous montrer combien, pour rétablir une relation, il faut des choses qui sont complexes, qui sont détaillées. C'est pas quelque chose que l'on peut ignorer d'un revers de main, et c'est pour montrer la gravité du péché. Maintenant, les choses sont beaucoup plus simples parce que Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, et en lui nous avons la purification, en lui nous avons le pardon. Mais l'exemple de l'Ancien Testament nous montre que c'est pas quelque chose qui était léger, qui était, et le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix, on va y revenir dans le texte, c'est pas quelque chose de simple et d'insignifiant, c'est très très lourd, c'est très chargé. Le péché n'est pas une chose à prendre à la légère, que ce soit avec la complexité des rites de l'Ancien Testament ou que ce soit avec la gravité de la mort du premier, du fils aîné, du fils de Dieu, pour pouvoir le traiter. On verra en étudiant Hébreux dans quelques temps que le sacrifice de Jésus-Christ, il a été offert une fois pour toutes. Il n'y a plus à le répéter semaine après semaine, jour après jour, comme c'était le cas lors du temps de l'Ancienne Alliance. Et au verset 24, on a vu qu'il venait offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Ça, c'était, en fait, on vient de le lire, c'était l'offrande des pauvres. Normalement, ils auraient dû, s'ils avaient eu les moyens, offrir un agneau. Mais en choisissant une famille qui était pauvre, Dieu veut nous montrer que l'argent n'a rien à y faire. Il n'y a pas de favoritisme avec les gens qui ont des moyens, contrairement à ceux qui n'en auraient pas, ou qui n'en ont pas. Dieu ne se soucie pas de vos circonstances matérielles, ou il n'est pas impressionné, mettons, pour le dire plus justement, par vos ressources matérielles. Ce qui compte encore une fois, c'est votre cœur. Et là, on avait tous ces personnages. Il faut se rappeler que ceci se passe après 400 années de silence divin. Le dernier prophète à avoir parlé avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'était le prophète Malachie, et c'était 400 ans avant l'arrivée de Jésus et de ces événements que nous découvrons ensemble. Et Dieu, on l'a vu en étudiant les six premiers livres des petits prophètes, parle toujours d'un reste de gens qui vont lui être fidèles, qui vont lui donner la place qu'il mérite dans leur vie, qu'ils vont lui consacrer leur vie, il y a toujours un reste. Et là, le reste de ces gens qui sont des lumières d'espoir pour nous, c'est Joseph, c'est Marie, c'était Zacharie et Élisabeth qui ont donné naissance à Jean-Baptiste, qui ont été les parents de Jean-Baptiste. Et là, il y a un autre personnage, comme ça, un personnage inconnu de l'histoire, ce brave Siméon, qui nous est donné en exemple dans ces quelques versets. Et c'est très bien que l'on pense à lui en chantant le chant qu'on a chanté ce matin, où il y a d'autres chants, mais d'honorer comme Dieu l'honore en le mettant dans les pages de ses saintes écritures, cet homme qui sinon aurait été totalement inconnu, cet homme qui n'avait rien fait de spectaculaire pour ses contemporains, sauf qu'il était juste et pieux. Verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et là, il est dit qu'il vint, verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et on verra ce qu'il fait. Mais on voit cet homme qui était juste. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, qu'il était sans péché, mais qu'il était déclaré juste par la foi qu'il avait dans ce Messie qu'il attendait. On demande des fois comment étaient sauvés les gens de l'Ancien Testament. Ils étaient sauvés de la même façon que nous sommes sauvés aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans le Messie. Pour eux, c'était un Messie à venir. Ils avaient lu les promesses de l'Ancien Testament, les promesses faites à Abraham, à Jacob et à Isaac, qui allaient avoir un homme qui allait régner, sauver, qui serait sur le trône de David. Cet homme qui devait venir, c'était bien sûr Jésus-Christ. Et c'est seulement par la foi en ce Messie à venir qu'ils étaient sauvés. Rien n'a changé. Nous, on se retrouve de l'autre côté de l'événement, du sacrifice à la croix de Jésus. Eux, ils l'attendaient, nous, on le regarde en arrière. Mais c'est seulement par cette foi qu'on peut être juste. Ce n'était pas par les sacrifices. Les sacrifices leur permettaient d'être purifiés pendant un temps, mais ils devaient continuer. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Il avait été déclaré juste de par sa foi. Il était aussi pieux. Pieux, c'est un mot qui est un peu vieilli. Ça veut dire qu'il cherchait à plaire à Dieu. On dirait, avec le langage du salut du Nouveau Testament, qu'il était sanctifié ou qu'il travaillait dans la sanctification pour ressembler de plus en plus à ce Messie qu'il attendait. Et on voit qu'il avait une relation remarquable avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était sur lui. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on dit que l'Esprit Saint était sur quelqu'un, ça veut dire qu'il avait été spécialement oint, il avait reçu une onction, une consécration pour une action ou pour des paroles, pour des prophéties. Mais il a fallu que Jésus-Christ soit sacrifié pour qu'il nous envoie son Esprit Saint qui maintenant demeure en nous. Lorsque nous sommes sauvés, il y a plusieurs relations avec l'Esprit Saint. Il y a d'abord l'Esprit Saint qui est dans le monde et qui mène les gens à Dieu. C'est toujours remarquable de voir comment quelqu'un qui n'est pas croyant est touché par Dieu. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans son cœur. C'est l'Esprit Saint qui le convainc de justice, de paix et de jugement, qui va lui demander ou l'inviter à aller plus loin avec Dieu. Si la personne va plus loin et reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, à ce moment-là, l'Esprit Saint vient en elle. L'Esprit Saint vient en nous. Et puis, ça c'est dans Jean 14 et 16 qu'on voit ça. Et puis dans Acte 1, on voit qu'il y a une troisième relation avec l'Esprit Saint. C'est la relation où l'Esprit Saint vient sur nous. Ces trois relations sont caractérisées par des prépositions autour, en et au-dessus. Elle vient. C'est pour ça que les disciples attendaient le Saint-Esprit qui allait venir sur eux pour en faire des témoins fidèles au début du livre des Actes. Et donc cet homme qui était déclaré juste, qui était pieux, donc sanctifié, il attendait la consolation d'Israël. C'est une belle expression, la consolation d'Israël, je trouve. C'est le Messie. On sait aussi que c'est un des noms de l'Esprit Saint, que Jésus-Christ, le Messie, nous a envoyé une fois qu'il est monté aux cieux, la première fois. C'est le consolateur, la consolation d'Israël. Ça fait du bien d'être consolé. Avoir quelqu'un qui vient compatir à votre douleur, qui vous donne quelques paroles d'encouragement. Quand tout va bien, on s'en moque. Mais quand on est dans la douleur, quand on a reçu de mauvaises nouvelles, il y a tout un ministère de consolation à l'image de Dieu le Père. Dieu, il est dit dans 2 Corinthiens, c'est le Père des consolations, de toute consolation. Et on espère, une petite parenthèse, on espère avoir une formation à la consolation par l'équipe de Billy Graham ce printemps, peut-être au mois d'avril. On a reçu, après l'attentat du 14 juillet, une équipe qui est venue nous aider les églises de la région à essayer de consoler les gens qui venaient de perdre des personnes chères dans cette terrible tragédie, cet attentat. Et il y a un ministère de présence, de consolation, qui peut paraître des fois un peu vide, parce que comme on dit, ça ne va pas ramener la personne qui est partie. Je pense toujours à ce grand-père qui pleurait, qui venait pleurer tous les soirs à l'endroit où il avait perdu sa petite fille, alors qu'il marchait, après avoir vu le feu d'artifice, il tenait à la main sa petite fille, le camion était venu, avait percuté, écrasé sa petite fille, et lui avait été indemne. On ne sait pas comment on fait pour vivre après avec ça. Mais il y a un ministère de consolation, un ministère de présence. On n'est pas là pour évangéliser nécessairement. Si les gens posent des questions, veulent savoir pourquoi on fait ça, on peut leur dire. Mais c'est d'être présent et de compatir, de souffrir avec, de montrer que la souffrance de l'autre, elle ne m'indiffère pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire tout le temps. Et il me semble que les réseaux sociaux, il faut qu'on ait encore plus appelé à le faire. On apprend des mauvaises nouvelles ou des décès, des maladies, on peut participer davantage à la vie d'un plus grand nombre de personnes que physiquement lorsqu'on connaît 100, 200 personnes. Là, on peut avoir des... Récemment, je viens d'avoir la nouvelle d'un ami qui est passé un an et demi ici au début de l'église, Andy Hirschman, que Marie-Christine connaît, qui a une grave maladie, qui vient de trouver qu'il a une grave maladie cardiaque. On va sans doute devoir l'opérer, enlever un morceau du cœur. Et là, on a un ministère de consolation, on peut envoyer un petit mot, on peut partager un verset, dire qu'on pense à la personne. Ce ministère, je crois que c'est un ministère qui est de plus en plus nécessaire et de plus en plus demandé, la consolation. Là, il s'agit de la consolation d'Israël. C'est un terme de l'Ancien Testament. Le mot en hébreu, c'était le mot Menachem. Vous vous rappelez du premier ministre israélien Menachem Begin? C'est ça, c'est le consolateur, c'est le mot paraclé, c'est comme le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, son nom. C'est cette délivrance nationale qu'ils attendaient. Les Juifs étaient au bénéfice d'alliances avec Dieu. Il y avait l'alliance d'Abraham, l'alliance abrahamique, qui disait qu'à travers lui et sa descendance, toutes les nations seraient bénies, qu'il allait leur donner un territoire énorme. Et puis il y a eu l'alliance davidique, ou l'alliance avec David, qui était le fait que non seulement ils auraient un grand territoire, mais qu'il y aurait une souveraineté qui serait établie sur ce territoire, l'accomplissement de ces prophéties, c'est bien sûr Jésus-Christ qui va venir régner. On a chanté ce matin qu'il est, son règne est sans fin. Dans Ésaïe 9:6, un merveilleux conseiller, Dieu puissant, etc. Son règne ne va pas cesser. Il y avait toutes ces promesses, et pourtant, l'histoire d'Israël qu'on a évoquée en étudiant récemment certains des petits prophètes, c'était le fait qu'ils étaient opprimés, qu'ils étaient face à des ennemis terribles. Ils avaient soif d'une délivrance nationale. Même à l'époque de Jésus, Israël était sous la domination romaine. Le Messie, pour certains, c'était celui qui allait les libérer de ce joug, de cette occupation. Mais cet homme juste et pieux, il espérait cette consolation, il espérait la venue du Messie. L'Esprit-Saint était sur lui. Et chose remarquable, c'est que l'Esprit-Saint lui avait révélé, lui avait donné cette conviction intime qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Et on peut imaginer que souvent on pense que, parce qu'on parle de mort et que là il le voit enfin, on pense qu'il était sans doute très âgé. Il y a même une tradition qui dit qu'il avait 113 ans, je crois. Mais rien ne l'indique vraiment. Il pouvait peut-être être beaucoup plus jeune. Mais il avait cette attente, et il savait que de toute façon, il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Seigneur. Quand j'étais plus jeune, je me disais, si je savais la façon dont je vais mourir, peut-être que par exemple, je vais mourir parce qu'un avion va s'écraser sur le bâtiment où je me trouve, je pourrais surveiller le ciel et je serais prêt à faire des choses héroïques. Je pourrais aller à Mossoul chercher des gens sur le dos sans avoir peur d'être tué par un sniper, parce que je dirais c'est pas, il n'y a pas encore d'avions qui vont me tomber, puis il n'y a plus de bâtiments ouverts, fermés plutôt. Et là, lui aussi, il savait que il allait voir le Seigneur. Il avait cette espérance. cette attente d'une chose positive qui le menait dans sa vie. Et on peut imaginer que c'était un homme plein de patience, un homme plein de douceur. Et une des choses qui corrobore cette impression, qui justifie cette impression, c'est que lorsqu'il vint au temple, encore, il suit le Saint-Esprit. Quand les parents amènent le petit enfant pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais apparemment il doit venir vers Marie et tendre les mains, et elle est prête à lui laisser son plus beau joyau, ce trésor de ce bébé qu'elle sait être vraiment spécial. Et on peut penser que toute sa contenance, toute son apparence était une apparence de douceur, de paix, de joie, de patience, d'amour. Elle lui donne cet enfant. Et là, il bénit Dieu et il dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Il y en a peut-être qui se rappellent de la dernière fois où l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Il n'y a pas si longtemps, 1998, ça fait quand même 18 ans maintenant. Il y avait un commentateur sportif qui avait officié sur les ondes de la télévision pendant des décennies. Et l'équipe de France avait un passé peu reluisant. Il y avait eu quelques périodes à l'époque de Platini où on avait eu une bonne équipe, mais il était émerveillé, il était tellement emballé de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde contre le Brésil. Et 1, et 2, et 3-0, c'était du délire. Et là, dans l'émotion du moment, il avait dit: après ça, on est prêt à mourir. Mais il s'était repris, il avait dit: enfin, le plus tard possible quand même. Il venait de réaliser l'énormité de ce qu'il venait de dire, et depuis il est mort. Mais un événement tel que ça, c'était, on dit, il n'y a plus rien qui peut dépasser ça, c'est formidable, j'ai vécu une vie valable parce que j'ai vu cette chose arriver. Et c'est un peu, toute proportion gardée, avec beaucoup plus de raison et de maturité dans la foi, ce que dit Siméon. Il dit: je vois de mes yeux, je vois le salut de l'humanité. Le terme qui est traduit par Seigneur, c'est mieux de dire maître souverain. Ça fait vraiment allusion à une relation d'esclave. Le mot en grec, c'est le mot despotes, c'est le mot despote, c'est le souverain qui est le patron. Souvent, c'est un terme qui a mauvaise presse dans nos imaginations, dans nos conceptions mentales, parce que le despote, on utilise ça pour dire un mauvais souverain. Staline était un despote. Hitler était un despote. Mais il lui dit: maître souverain, tu peux me laisser partir. Et je pars en paix. Il avait eu cette espérance et il la voyait réalisée. Souvent, Dieu nous donne des espérances que nous n'allons pas voir se réaliser de nos yeux. Mais ça n'empêche, cette assurance d'un bien à venir, elle peut nous motiver pour nos vies, pour le reste de notre vie. Et cet homme inconnu, en fait, il fait une grande déclaration théologique. On a vu au verset 25 qu'il attendait la consolation d'Israël. Il attendait que Israël soit secouru par Dieu, par la venue de ce Messie. Mais là, il montre que le salut, il a été préparé devant tous les peuples. Verset 31. Ça, c'est énorme pour les Juifs. Les Juifs pensaient que les païens avaient été destinés, étaient destinés plutôt à servir de charbon au feu de l'enfer. Ils avaient une vision très raciste du monde, et en dehors d'eux, il n'y avait point de salut, le pensait-il. Et là, cet homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui parle, il dit « Mes yeux ont vu ton salut. Par cet enfant, le monde va être sauvé. » Et il a été préparé devant tous les peuples, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement pour le peuple juif, et il est, verset 32, une lumière pour éclairer les nations, et il est la gloire d'Israël, ton peuple. Et ça, c'est, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau dans la révélation divine. Ça avait été exprimé, je devrais dire, dès la Genèse, dans la promesse faite à Abraham, que toutes les nations de la terre allaient être bénies par la descendance d'Abraham, parlant justement de Jésus. Mais là, ça avait été complètement perdu de vue par les Juifs. Ils se regardaient, ils voyaient leur misère, ils voyaient leur souffrance, ils voyaient l'occupation. Mais leur salut allait être aussi le salut du monde entier. Dieu a envoyé Jésus-Christ, encore une fois, pour tous les hommes. Pas seulement pour les Européens, pas seulement pour les Occidentaux, pas seulement pour les chrétiens. Il l'a envoyé pour les musulmans, pour les athées, pour les bouddhistes, pour tous les peuples, toutes les nations. Il n'y a pas de favoritisme. Et il reprend... On est frappé, en fait, dans ces quelques lignes, on peut voir des tas de passages, où on peut faire des références à des tas de passages du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est une Bible en miniature. Il y a 66 chapitres, comme il y a 66 livres dans la Bible protestante. C'est vraiment des termes, il utilise des termes qu'il a pratiqué, qu'il a entendu dans le prophète Ésaïe. L'idée de la lumière qui éclaire les ténèbres, c'est quelque chose qui revient sans cesse. On peut regarder Ésaïe 9, on y a déjà fait allusion, mais regardons quelques passages. Ésaïe 9. Le premier des grands prophètes. Versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. De l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Il y a aussi cette expression de lumière des nations. C'est le nom d'une association bien connue à l'Ariane. Lumière des nations, tous les peuples, les immigrés, les franchouillards, tous les peuples ont besoin de la lumière de Jésus-Christ. Il est la lumière des nations et pour Israël, il est même sa gloire. C'est aussi une idée de lumière qui brille, de gloire qui brille. Ésaïe 42, je ne sais jamais trop... Parce que l'expression revient dans plusieurs passages, s'il y a un verset en particulier qui a conduit Paul et Élisabeth à appeler leur association la lumière des nations. Soleil des nations, pardon, oui. C'est autre chose alors. Mais c'est une lumière le soleil. Ouais. Ésaïe 42, 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Ésaïe 49, 6, si vous notez. Il est question du serviteur de l'Éternel. De Jésus, il dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que cette idée que Jésus allait être la lumière des nations devant tous les peuples, ce n'était pas quelque chose qui était absent de la parole de Dieu. C'est depuis la Genèse, en passant par Isaïe et beaucoup d'autres prophètes, mais c'est quelque chose qui était complètement oublié par les Juifs de l'époque. Il y avait la religion officielle, les Juifs orthodoxes de l'époque, les pharisiens, les autres sectes, les sadducéens, les esséniens, qui avaient une foi, mais c'était une foi formelle, ce n'était pas une foi personnelle. Ils avaient oublié cette promesse de bénir les nations. Il y en avait même qui voulaient tuer tous les païens, les zélotes. Et en fait, non. Ils voulaient que cet homme, Siméon, son espoir, c'était un espoir pour tous les peuples, toutes les nations. Et c'est ce qu'il annonce. Et c'est ce qui émerveille Joseph et Marie. Ils étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. On est toujours émerveilleux par ce qu'on apprend sur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans une démarche d'étude de la Bible, que ce soit une étude personnelle, une étude avec d'autres personnes dans l'Église ou ailleurs. C'est toujours être en recherche. Plus on cherche et plus on est émerveillé par ce qu'on trouve. La mère de Jésus, Marie, et Joseph, le père pas le Père naturel, on sait que c'est l'Esprit Saint qui avait recouvert de son ombre Marie et qu'il avait, Jésus avait été conçu sans l'intervention d'un homme. Ils étaient émerveillés, ils connaissaient beaucoup de choses déjà, ils avaient entendu, Marie avait entendu les promesses, elle devait l'appeler Jésus, comme on a dit, on lui avait donné le nom de Jésus qui vient du mot de Dieu sauve. Yéhovah Shua, Joshua, Jésus, après le passage par la langue grecque, c'est le mot qu'on a retenu en français, mais c'est le mot du salut, c'est, elle savait qu'il allait être le salut, mais de le voir être ainsi rappelé par Siméon, qui est mené par l'Esprit Saint. On pense des fois que c'est, parce qu'on a la crèche, la représentation de la crèche, qui a que quelques centons, parce que ça coûte trop cher, les centons. Mais à l'époque, sur le temple, il y avait sans doute des milliers de personnes qui allaient, venaient, qui parlaient. Et là, il y a cette conversation. L'Esprit Saint a guidé Siméon vers l'enfant Jésus, vers la consolation d'Israël, vers la lumière de toutes les nations. Et puis, c'est une question qu'on pose quand on fait des sondages sur Noël à la fac. On demande si les gens voient un rapport entre Noël et Pâques. Et souvent, les gens, oui, ce sont des fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes où on mange bien. Mais en fait, bien sûr, le Noël, c'est la venue de Christ. Mais il n'est pas venu juste pour passer des vacances sur la terre, il est venu pour mourir. Sans Noël, Pâques n'existe pas. Sans Pâques, Noël n'a pas de raison d'être. Et c'est ce que Siméon déclare au verset 34, et c'est la première note négative dans tout l'évangile de Luc. Il dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il va être une occasion de chute, il va être une pierre d'achoppement. Il va participer au relèvement de beaucoup en Israël, tous ceux qui vont croire en lui, et ils n'étaient pas très nombreux, encore une fois c'était un reste de juifs. On dirait aujourd'hui des juifs messianiques qui pensaient que leur messie était bien arrivé en la personne de Jésus. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui attendent le Messie, mais ils ne savent pas qu'il est déjà venu et qu'il va revenir. Ils attendaient, cet enfant était destiné à être une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, c'est une pierre qui nous fait trébucher. Il peut être une occasion de chute ou bien une occasion de relèvement. Si on ne croit pas en lui, si on le néglige, si on le méprise, à ce moment-là, c'est une chute terrible, parce qu'on ne s'en remettra jamais. Il n'y a pas d'autre voie pour venir au Père que par Jésus-Christ. Et par contre, si on l'accepte, à ce moment-là, on peut se tenir droit devant Dieu, comme si nous n'avions jamais péché, nous sommes au bénéfice de son amour éternel, de la vie éternelle. Mais il va être un signe qui va provoquer la provocation. Tous les récits des évangiles nous montrent combien soit on était amoureux de lui, soit on était contre lui. On voit la différence entre les disciples qui le suivaient avec passion et puis les autorités religieuses qui voulaient le supprimer, qui l'ont finalement mené à la croix. On sait que c'est Jésus-Christ et le Père qui avaient décidé de toute éternité d'aller à la croix. Personne n'a forcé Jésus, c'est lui-même qui s'est donné en sacrifice. Mais il provoque la contradiction. Et aujourd'hui encore, vous pouvez parler de Bouddha dans bien des endroits, vous pouvez parler de Karl Marx. On vous donnera des salles pour faire des conférences à la fac de lettres. Mais si vous parlez de Jésus-Christ, alors vous allez provoquer des réactions vives. La semaine dernière, avec Rodlan, on a revu un monsieur qui nous avait déjà interpellé en disant qu'on n'avait pas le droit de faire ce qu'on faisait, que c'était du prosélytisme, que c'était interdit. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai un peu réagi dans la chair. J'ai envoyé se faire voir chez les Grecs. Non, je lui ai dit qu'il me montre le texte de loi, que ça faisait 20 ans qu'on était là et que ce n'était pas lui qui allait nous empêcher d'être présent. Mais il y a toujours cette vive réaction. Je suis sûr que si j'avais parlé de Mohamed, il n'aurait rien dit, peut-être par peur de représailles. Il aurait accepté que je parle de Bouddha. Mais parler de Christ, c'est toujours lui qui provoque la contradiction. Et puis, il parle, s'adressant à Marie, il lui dit « Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Autrement dit, il lui prédit des souffrances émotionnelles, un chagrin terrible. Et on sait que Marie, c'était... Des fois, on parle de Mater Dolorosa. Dolorosa, en latin, c'est la mère des douleurs. Parce que non seulement elle a vu l'opposition que Christ a rencontrée pendant sa vie, les menaces qui pesaient sur lui, mais elle l'a vu aussi à la croix souffrir l'agonie par amour pour toute l'humanité. Et ça, c'était comme une épée qui transperce le cœur. Parce que vous avez une douleur très, très vive, un chagrin très intense, ça fait mal comme si c'était une épée qui transperce votre cœur, qui transperce l'âme. Mais il ajoute, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Encore une fois, il va être le tournesol chimique qui montre si quelque chose est acide ou basique. Il va montrer ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Est-ce que vous êtes un cœur qui aime Dieu et qui voulait lui plaire, ou est-ce que vous voulez lui plaire, ou bien est-ce que vous êtes opposé à lui, ou bien est-ce que vous acceptez Jésus-Christ? La seule question qui vous sera posée au jugement dernier, c'est pas la liste de vos péchés, c'est qu'est-ce que vous avez fait de Jésus-Christ? Et ça, c'est Siméon qui nous le rappelle, après avoir espéré pendant des années, après avoir attendu. Je sais que des fois, Attendre le Seigneur, c'est pas facile, mais en même temps, c'est quelque chose que je peux faire parce que je peux faire d'autres choses en attendant. Par contre, le psaume 46, 10 nous dit de cesser de vous battre et sachez que je suis Dieu. Se mettre à l'écoute de Dieu, réfléchir à lui, ça c'est activement et non pas en faisant autre chose comme on peut faire en attendant. Mais ce qui est clé, c'est que on peut méditer sur l'espérance que Noël nous annonce, l'espérance de ce salut qui est pour tous les hommes, cet Esprit Saint qui vient en nous, qui nous transforme. C'est ce que je souhaite à tous et à moi-même.